Session sur les trois sagesses par le Père Marie-Dominique Philippe, le 26 septembre l'an 2000 à Saint-Lodard.
D'abord pour tous un grand bonjour. Et je vous remercie de vos prières, parce que je sais que vous l'avez fait pour que je me rapproche de plus en plus du ciel, avec l'anniversaire où j'étais absent, où j'ai pensé à vous, là-bas, à Peoria. On commence tout de suite à entrer dans ce que nous essayons de faire ici. Ce que nous devons essayer de faire ici, il faut toujours reprendre. Je vous ai dit, du moins à certains d'entre vous, puisque il y a quand même un peu de nouveau au début de cette année, parce qu'au Saulchoir, chez les Dominicains, je suivais après le père Gérard Deslauriers, qui était un matheux, il enseignait la philosophie un peu dans une perspective mathématique. Vous comprendrez tout de suite. Alors c'était le début de l'année, premier cours de l'année en septembre. Il donnait le premier cours et je le suivais. Alors je descends, je le rencontre, je lui dis, alors ça va bien, ils sont intelligents. Il dit, ils n'ont pas l'air de comprendre. Elle dit, comment ça se fait? Ben oui, l'année dernière, en juin, je n'avais pas terminé cette question, mais j'ai repris cette question et il n'a pas l'air de comprendre. Alors je dis, mais c'est pas étonnant, parce qu'il y en a quand même beaucoup de nouveaux qui n'ont pas assisté à votre cours du mois de juin. Elle dit, ah c'est vrai, et oui. Alors, vous voyez, le mathématicien, il fallait que tout le monde, premier cours de l'année, ça continue, donc on continue, on raccroche le train qui était resté en place au mois de juin, on le reprend, puis on continue. Ben, nous allons au contraire prendre le point de départ pour tout le monde. Le point de départ au point de vue philosophique, c'est l'expérience. Mais pas toute expérience. L'expérience au sens fort. Parce que vous avez des expériences qui sont des expériences intérieures. Des états d'âme. Vous avez tous un état d'âme, je suis sûr, au début de l'année, point de départ. Premier cours de l'année, un état d'âme pour écouter ce cours. Est-ce qu'il va correspondre à votre état d'âme? Et l'état d'âme des petites sœurs n'est pas le même que celui des frères, et puis ceux qui sont des étudiants laïcs, c'est encore un autre état d'âme. Alors je dois faire trois cours pour les états d'âme spéciaux. Non, en philosophie, on dépasse les états d'âme. On laisse ça pour la psychologie. On dépasse les états d'âme tout de suite. Parce que c'est très subjectif, un état d'âme. Ça passe. Et après le repas de midi, ça change. C'est plus la même chose. Puis ça change, c'est du soleil. Il y en a aujourd'hui. J'étais heureux. Il y a du brouillard, c'est sûr. Mais ça fait rien. Le soleil dans le brouillard, ça fait un état d'âme d'espérance. Et alors, ça peut encore aller, on est dans l'espérance. On comprendra. Le premier cours que j'ai assisté, moi, jeune étudiant, j'ai rien compris. Et à la fin du cours, j'ai dit au professeur, c'était mon frère, j'ai dit, j'ai rien compris. Alors, il m'a simplement dit, mais tu crois que je faisais le cours pour toi? Alors, je me suis tué. J'ai mis longtemps à comprendre. mais du temps. Si le train part, on prend en route, mais c'est pas toujours commode. Donc, laissez états d'âme, on les laisse de côté. Ça ne veut pas dire que les états d'âme, c'est rien du tout, non. Ça demande d'être dépassé. Le devoir, vous êtes ici parce que vous devez l'être. Oui. Vous l'êtes parce que vous devez l'être. Alors, on fait stop, parce que oui, la cloche a sonné. Premier cours, ça dure trois quarts d'heure, une heure. On va essayer d'en profiter le plus possible. La philosophie par notre philosophie réaliste, celle d'Aristote, pas celle de Platon. Celle de Platon, elle partait de l'inspiration, d'un état d'âme très supérieur, parce que l'inspiration c'est encore un état d'âme, hein, très supérieur. Et l'inspiration divine, c'est aussi un état d'âme. Et plus l'intelligence avec. On part d'une philosophie réaliste, de la réalité et de l'expérience. L'expérience est un acte humain. Une vache ne fait pas d'expérience. Elle broute instinctivement. Vous avez tous vu une vache brouter, puis après elle lève, puis elle continue de digérer. Je ne sais pas ce qu'elle pense. Je me suis toujours demandé ce que la vache pensait, surtout quand on est devant les charolais, ils sont particulièrement rêveurs. C'est des grosses bêtes. Ils regardent devant, sans rien regarder. Il n'y a pas d'expérience. C'est l'instinct. Vous voyez, les états d'âme, l'instinct. Et puis l'expérience, c'est humain l'expérience, c'est de voir qu'on est assis, qu'on écoute, c'est une expérience d'écouter quelqu'un qui nous enseigne, et puis on prend des notes, une expérience. Il y a l'expérience qu'on fait de l'étudiant. Étudiant, on écoute quelqu'un qui doit nous enseigner, qui doit nous faire progresser lentement. L'expérience au sens fort, c'est la rencontre avec une réalité qui n'est pas nous. La réalité qui n'est pas nous, pour vous, c'est d'une part votre siège, vous êtes assis sur un siège, c'est pas vous. C'est la table sur laquelle vous écrivez, c'est le porte-plume ou le bic que vous prenez, c'est le papier sur lequel vous écrivez, tout ça, c'est pas vous. Vous utilisez cela et ça vous appartient. Et ça fait partie de cette expérience complexe, particulière. C'est moi. Je suis bien réveillé. Si je n'ai pas bien dormi, j'ai peut-être un peu de sommeil, je me réveille. Parce que vous avez eu, depuis votre réveil, déjà plusieurs expériences. Vous êtes levé, vous avez été à la chapelle. C'est une expérience. Vous avez essayé de prier. Expérience, vous adressez à Dieu, qui est intime à vous, mais il n'est pas vous. Vous avez chanté l'office, vous avez pris un petit déjeuner, vous avez fait un petit travail normal chez vous, n'importe où, je ne sais pas, peu importe, puis vous venez. La philosophie réaliste part de l'expérience. Il y a un choix dans les expériences. Hein. On sait bien qu'on a de multiples expériences et qu'il y a dans le fond de nos expériences, des vraies expériences, ce qu'on appelle un jugement d'existence. Vous ne le posez pas tout le temps. Hein. Vous vous êtes assis, la chaise est réelle. Elle aurait pu être intentionnelle, une chaise qui n'était rien, mais pour la vue, vous auriez vu une chaise. Non, elle est réelle, chaise ci-dessus. C'est réel. Hein. La table sur laquelle je suis est réelle. Ce jugement d'existence, il est présent dans toute expérience forte d'une réalité extérieure à moi. L'autre est la réalité extérieure à moi. Et le jugement d'existence me dit simplement que cette réalité existe en dehors de moi. Et ce jugement est tellement radical, tellement profond, que il faut que le philosophe l'exprime. D'habitude, vous ne l'exprimez pas. Je suis sûr. Vous ne l'avez sûrement pas encore exprimé depuis ce matin. Et pourtant, vous avez été en contact avec beaucoup de réalités autres que vous. Mais maintenant, vous dites, c'est vrai, autre. Je suis à côté de quelqu'un qui n'est pas moi. Je dois faire attention. Je ne dois pas prendre toute la place. Il est à côté de moi. Et il a l'air de très bien écouter. Ou bien il a l'air, au contraire, de ne rien y comprendre. C'est vrai. Vous faites un jugement d'existence, là. La philosophie, notre philosophie réaliste, part de l'expérience. Beaucoup ont mis en doute cela. Descartes. En disant que l'expérience, elle est source d'erreur. Je mets un bâton dans l'eau, la fameuse chose qu'on dit toujours, je mets un bâton dans l'eau, je regarde ce bâton dans l'eau, il a l'air d'être coupé, d'être cassé. Donc, je ne peux pas me fier à l'expérience. Donc, une philosophie qui part de l'expérience, c'est une philosophie qui ne sait pas si elle n'est pas erronée. D'où, point de départ, le doute, point d'interrogation. Ah, c'est très significatif, ça. Notre philosophie européenne a eu, à un moment donné, un arrêt. À la place de commencer par l'expérience, bien avant Descartes, des théologiens, ils étaient franciscains, ils étaient à Londres, ils ont dit, ah, le commencement de la philosophie, c'est « je pense ». Occam, 14e siècle, « je pense ». Ah, il y a tout de suite une très grande divergence. Ceux qui disent « la philosophie commence par « je pense ». C'est ce que Descartes a dit, mais Descartes n'est pas le premier à avoir dit. Hein. Avant Descartes, 14e siècle, il y avait déjà un théologien qui disait « Occam intelligo », pas cogito, mais « intelligo ». Et comme il était franciscain, il ajoutait « et amo Socratem ». Ça, c'est ça, c'est franciscain. Je pense, et puis j'aime Socrate. C'est pas mal. Alors, vous avez tout de suite, si vous regardez l'histoire de la pensée, de la philosophie, vous voyez en Europe une première montée philosophique, théologique, qui part de l'expérience, jugement d'existence. Et puis, vous avez à côté un petit filet d'eau qui commence par « je pense » et « j'aime Socrate ». Et Descartes a repris ça avec une très grande vigueur. Et puis le premier qui écrit en langue vulgaire sa philosophie, donc beaucoup plus étendue, cogito, ergo sum. Tout français, tout philosophe connaît ce que Descartes dit, cogito, le cogito de Descartes, ergo sum. Je pense, par le fait même que je pense, je suis. Alors, l'être est après le cogito. Mais le cogito reste premier. Intelligo, Occam, cogito, Descartes. Et ça continue comme ça. Alors, il y aura deux philosophies qui vont se développer parallèlement. Une philosophie réaliste et une philosophie subjective qui commence par le cogito. C'est très, très important de saisir ça. De saisir que, de fait, on est en face de deux mondes de la pensée, qui se sont développés parallèlement et souvent en opposition. Quelqu'un comme Étienne Judson, qui est un bon historien de la pensée, que le Saint-Père aime beaucoup. Le Saint-Père, dès qu'on a parlé de philosophie, m'a dit: qu'est-ce que c'est qu'Étienne Judson pour vous? Est-ce que vous l'aimez bien? Et là où le Saint-Père a enseigné la philosophie, Étienne Judson était le maître. Étienne Judson dit avec beaucoup de justesse qu'au fond, on est en présence de deux mouvements de l'esprit. L'un qui met l'être avant la pensée, l'autre qui met la pensée avant l'être. Oui. C'est curieux. L'un plus traditionnel, qui dépend d'Aristote, la pensée connaît l'être. Ceci est. Jugement d'existence. Ceci est. Et donc, la pensée est relative à l'être. Et dans l'expérience, le jugement d'existence est présent. Dans toute expérience au sens fort, le jugement d'existence est là. Mais c'est tellement naturel qu'on ne l'explicite pas. On le laisse enfoui dans l'expérience. Dans toutes vos expériences, le jugement d'existence est présent. Et puis, cette chose curieuse, et ça vient d'un théologien, d'intelligent croyant, un religieux, un franciscain. Non, c'est la pensée qui est avant l'être. Intelligo et amo Socratem. Je pense et j'aime. Je pense et j'aime. Et c'est par l'amour que je rejoins la réalité, pas par la connaissance. Et donc, on a la connaissance qui mesure la réalité. Tandis que de l'autre côté, c'est l'être qui mesure l'intelligence, qui en est comme la mesure. Mon intelligence se tourne vers la réalité et mon intelligence se développe en fonction de la réalité. J'aurai là deux mouvements de l'intelligence, deux tendances, une tendance réaliste et une tendance idéaliste. La subjectivité étant première par rapport à la réalité connue. Tandis que de l'autre côté, la réalité connue est première, et elle commande, elle détermine ma pensée. On a tout de suite un primat de l'objet ou un primat du sujet. Et de fait, quand je regarde l'histoire de la pensée en Europe, dans le monde occidental, parce que l'Inde, c'est différent. Quoi qu'on retrouve dans l'Inde, je ne suis pas spécialiste, mais j'avais une grande amitié avec un grand spécialiste de la philosophie de l'Inde, et il me disait, c'est curieux, on retrouve exactement les deux mêmes tendances. Dans la grande période philosophique de l'Inde, on retrouve ces deux tendances. Un primat de la réalité ou un primat du sujet connaissant. Dans la philosophie que nous faisons ici, dans cette philosophie que le Saint-Père, dans son encyclique récente, Foi et raison, montre que c'est la seule philosophie qui peut être ancilla, servante de la foi, pour donner la théologie. Nous faisons, et le Saint-Père le dit avec netteté, nous faisons une philosophie pour elle-même et non pas une philosophie pour qu'elle soit servante de la foi. Vous voyez, trop facilement, on a fait une philosophie pour la théologie. Et par le fait même, la philosophie ne pouvait plus atteindre sa vraie finalité, ce pourquoi elle existait. Le Saint-Père affirme dans cette encyclique, l'Église n'a pas de philosophie propre. La philosophie est l'œuvre de l'homme, de l'intelligence humaine, avec le secours de Dieu, le secours de la grâce. Et ça, c'est très important que le Saint-Père ait affirmé avec tant de force, parce que on parlait beaucoup d'une philosophie chrétienne. Et on ne savait pas très bien ce que c'était. Ceux qui affirmaient une philosophie chrétienne, c'était souvent parce qu'ils n'étaient pas de vrais philosophes. Alors ils avaient besoin de s'appuyer sur la foi. Parce que c'est vrai que la foi a aussi un jugement d'existence. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Voyez, la foi ne commence pas par l'expérience. La foi commence par la parole de Dieu. Dieu me parle. Dieu m'interroge. j'écoute Dieu. La foi commence immédiatement par l'existence de Dieu. La foi ne commence pas par étudier ce qu'est l'homme. Mais la foi commence par étudier ce qu'est Dieu. Et le Saint-Père, dans cette encyclique qu'il faut lire, qu'il faut avoir lu, parce que ça si on est chrétien, ça nous montre qu'il faut commencer par une philosophie réaliste. Si on veut être ensuite théologien. Parce que la foi est réaliste. La foi adhère à Dieu me parlant, me révélant ce qu'il est. La plus grande des réalités, c'est évidemment Dieu. Je suis moi-même relatif à Dieu dans mon être, dans mon existence. Si je suis relatif à Dieu dans mon existence, cela prouve que Dieu est premier dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de l'exister. Et la foi implique une adhésion au mystère de Dieu. La philosophie part au contraire de l'expérience. Ça, il faut bien le voir d'une façon très nette, dès le point de départ. Et pour nous, le fait que le Saint-Père ait écrit cette encyclique pour les évêques, pour les théologiens, pour tous ceux qui enseigneront, cette encyclique nous est donnée pour cela. On doit l'écouter. Ce serait dangereux de se mettre en contradiction avec la pensée du Saint-Père. Le Saint-Père rappelle avec beaucoup de netteté que la philosophie est propre à l'homme, non pas en tant que croyant, non pas en tant qu'homme d'église, en tant qu'homme ayant une intelligence, ayant un cœur. De sorte que l'église n'a pas de philosophie propre. Elle a une morale propre. Ça, on le verra. C'est vrai. La morale de l'Église n'est pas une morale purement philosophique. Et c'est toujours ces problèmes qui se posent entre une morale humaine et une morale chrétienne. Et la morale chrétienne, c'est l'Église qui en est gardienne. C'est l'Église qui le rappelle. Mais la morale n'est pas toute la philosophie. La morale est une partie de la philosophie, une partie pratique, une partie concrète de la philosophie. Alors ça, laissons ça de côté. Il faut le savoir. Mais très facilement, on a confondu l'éthique chrétienne avec la philosophie, alors que la philosophie va beaucoup plus loin, puisque c'est une recherche de la vérité. Alors, si nous sommes chrétiens, l'encyclique du pape nous aide. Indépendamment de cela, l'Église nous demande nous devons découvrir une philosophie recherche de la vérité au niveau proprement humain. Une philosophie qui a comme mission de développer notre intelligence, donc de nous rendre plus humains, faire que l'homme qui est en nous se développe et arrive à sa perfection d'homme qui recherche la vérité. Autrement dit, ce qui est très important pour nous, c'est de comprendre qu'il y a une recherche de la vérité autonome, une recherche de la vérité qui ne s'appuie que sur la réalité, non pas sur les possibles, ce qui peut être, ce qui peut exister, sur mes imaginations, sur ce que les gens disent. Non, une philosophie qui repose sur la réalité. Le philosophe cherche la vérité à partir de ses expériences et en essayant, dans ses expériences, de découvrir ce qu'est l'homme, la dimension réelle de l'homme, de découvrir la personne humaine. Et pour cela, revenir toujours à l'expérience. Je peux, étant chrétien, être attentif à ce que ma recherche de vérité soit toujours en harmonie avec ma foi. Je ne laisse pas de côté la foi en disant « je dois être un païen ». Non, pas du tout, pour être un philosophe. Pour être un philosophe, il suffit d'être un homme, pas d'être païen, pas d'être non-croyant. Non, d'être un homme. Et donc, si je suis chrétien, je fais de la philosophie en tant qu'homme. Et je ne fais pas appel à ma foi chrétienne. Mais ma foi chrétienne demeure en moi. De sorte que je ne sépare pas, je distingue. Ça, très important. Bien comprendre que distinguer n'est pas séparer. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, on considère que distinguer est une séparation. Vous distinguez votre âme de votre corps, vous ne la séparez pas. Vous distinguez votre existence de l'existence de Dieu, vous ne les séparez pas. On peut distinguer la foi de la philosophie. Mais je suis le même homme qui est philosophe et qui est chrétien. C'est important, dès le point de départ, de comprendre cela pour éviter des quantités de faux problèmes. Si on ne distingue pas le philosophe ou l'étudiant en philosophie du chrétien, on ne peut pas faire de philosophie. Et on est un mauvais chrétien, puisque on n'obéit pas à ce que le Saint-Père nous dit. Et on le fait consciemment. Alors que le Saint-Père nous dit que la philosophie, elle est propre à l'homme. Elle n'est pas d'église. Elle ne vient pas du Christ. Elle vient du Christ, oui. En sens que tout l'homme dépend du Christ. Mais Jésus veut que l'homme recherche ce qu'il est pour mieux comprendre ce que le Christ nous apporte gratuitement. Ce que le Christ permet que nous soyons plus entièrement, plus totalement vrais. Il y a la vérité du philosophe et il y a la vérité du croyant. Ces deux vérités ne sont jamais contradictoires. Elles peuvent quelquefois nous apparaître contradictoires parce que nous n'avons pas atteint avec assez de pureté la vérité philosophique ou la vérité de foi. Mais si nous saisissons avec pureté la vérité philosophique et la vérité de foi, il n'y a jamais de contradiction. Pourquoi ? Parce que c'est le même Dieu qui est le créateur de mon intelligence et c'est le même Dieu qui me parle comme Père. Des deux côtés, Dieu est Père de mon âme et du développement de mon âme spirituelle. Et au point de vue de la foi, il est Père surnaturellement. Autrement dit, il y a cette distinction qu'il faut bien respecter entre ce qui est naturel en nous, ce qui est conforme au développement normal de ma nature humaine, et ce qui vient s'ajouter gratuitement par un don merveilleux de Dieu, la foi dans le Christ, le mystère de Jésus, qui vient s'ajouter. Notre vie chrétienne, notre vie religieuse se fait au niveau de notre foi. Mais comme la foi vient d'en haut, comme ma nature humaine vient d'en haut, ils ont la même source. Mais la même source dans la réalité, mais en même temps, l'une a sa source dans le Créateur et l'autre a sa source dans Dieu qui nous aime et qui nous élève jusqu'à lui. Il faut bien discerner les deux. C'est très important, constamment, de saisir cela. Donc, nous avons d'abord, en premier lieu, une sagesse philosophique. Alors, quand j'affirme cela, nous avons en premier lieu une sagesse philosophique. Ceci, saint Thomas l'affirme à la suite de tous les pères de l'Église. Tous les pères de l'Église distinguent la nature humaine et la grâce. Et saint Thomas, en tant que théologien, et comme le dit le Saint-Père, saint Thomas est celui qui a le mieux saisi l'harmonie et la distinction entre nature et surnature. Et c'est très important de distinguer cela. Regardez dans l'Évangile, quand Jésus rencontre pour la première fois l'intelligence de son peuple juif avec Nicodème dans l'évangile de saint Jean. Nicodème, un théologien, un docteur de la loi, convaincu de sa grandeur, de ce qu'il est, et Jésus, sûrement beaucoup plus jeune que lui. Jésus a 30 ans, Nicodème doit en avoir 50. Je ne sais pas, mais je crois. Pour saluer Jésus comme il le fait, avec une telle majesté, c'est beau. Jésus ne salue pas Nicodème, c'est très curieux. Il le connaît, il l'aime, et il va tout de suite beaucoup plus loin que la salutation humaine. Il ne la supprime pas, il va tout de suite beaucoup plus loin. Et Jésus, en dialoguant avec Nicodème, montre qu'il faut naître de nouveau de l'eau et de l'esprit. Et Nicodème ne comprend pas comment, quand on est vieux, peut-on rentrer dans le sein maternel. C'est gros, ça. Hein, vous voyez, la compréhension matérielle de ce que dit Jésus. C'est tout de suite ce qu'on voit. Nicodème ne comprend pas que Jésus parle d'une naissance surnaturelle, d'une naissance divine. Il comprend ça naturellement, comme s'il n'y avait qu'une seule naissance en nous. Et Jésus le reprend avec beaucoup de netteté. Tu es maître en Israël, comme docteur de la foi. Tu es maître en Israël et tu ignores cela. La première chose à comprendre, c'est ce qui est de la nature humaine, ce qui relève de la nature humaine. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand dans la nature humaine ? L'acquisition de la sagesse philosophique. Et l'Église, aujourd'hui, faisant écho à Jésus, a dit en face de Nicodème, l'encyclique est écrite pour les évêques. On les enseigne. Le Saint-Père fait écho directement à Jésus en montrant que la philosophie, sagesse, est purement humaine. C'est une acquisition de l'homme. Il n'y a pas de philosophie propre à l'Église. Et il montre que la grâce qui s'épanouit dans la foi, en premier lieu, dans l'espérance et la charité, ensuite, que la grâce est un don surnaturel de Dieu, qui s'ajoute à la nature humaine, qui ne la détruit pas, qui n'est pas contre la nature humaine, mais qui est au-dessus. C'est surnaturel. C'est du super naturel. Et ce super naturel n'est pas selon la nature. La grâce est selon Dieu. Elle vient de Dieu et elle retourne vers Dieu. Mais ce super naturel n'est en rien contre nature. Mais il n'est pas selon la nature, il est au-dessus, il est selon Dieu. Nous avons en nous cette vie chrétienne que nous développons par notre vocation et dans notre vocation de religieux, notre vie chrétienne qui est au-dessus des exigences propres de la nature et qui nous fait découvrir un domaine de vérité qui est au-dessus de la nature humaine, qui dépasse le point de vue de la nature humaine, mais qui n'est jamais contre. La grâce n'est jamais contre la nature, mais la grâce est au-dessus de la nature. Et ça, c'est très important. C'est le point de départ. Premier discours de Jésus à Nicodème, à Jérusalem, quand Jésus enseigne son peuple. Et aujourd'hui, l'encyclique du pape aux évêques, pour leur rappeler que la distinction entre la nature et la grâce n'est pas toujours bien faite, où on ramène la grâce à la nature, on cherche à être selon le monde, selon les convictions de tout le monde, on cherche à avoir une philosophie qui est conforme à celle de la Sorbonne, sans se demander si elle est vraie ou pas vraie. On ne cherche pas à saisir ce que doit être la vérité. Et c'est ça qui nous importe. Ensuite, nous essaierons de voir comment cette recherche de la vérité est plus ou moins la philosophie officielle. Il y a des éléments, et puis il y a des choses tout à fait opposées. Mais ça vient après, ça. On ne se met pas à l'école d'une philosophie humaine qui ne recherche pas la vérité. On se met à l'école d'une philosophie qui cherche la vérité et qui veut atteindre la vérité. Et une philosophie sagesse qui atteint la vérité jusqu'au bout. Ce que nous verrons ensuite, la philosophie n'est pas une science. Elle demande à être une sagesse. Alors, il faut bien comprendre la différence entre la science et la sagesse. Et elle est une sagesse humaine que nous pouvons tous acquérir. Disons pas, je ne suis pas très intelligent, je ne suis pas très spéculatif. C'est faux de dire ces choses-là. Est-ce que vous êtes un homme ? Si vous êtes un homme, vous avez une intelligence. Mais l'intelligence que vous avez, la plupart du temps, elle dort. On l'a piquée avec le chloroforme, elle dort. On est tous chloroformés. On ne cherche plus la vérité. La dernière parole que le Saint-Père m'a dite, personnellement, juste avant l'encyclique, c'était quand, de fait, une visite canonique s'était faite dans tous les grands séminaires en Europe. Le Saint-Père a été catastrophé de voir que la philosophie n'était plus ce qu'elle devait être. Et il m'a dit, Père Philippe, où enseigne-t-on la vraie métaphysique ? C'est-à-dire la vraie philosophie qui s'achève en métaphysique. Où enseigne-t-on ça ? Il avait l'impression qu'on n'enseignait plus. Et c'est à cause de ça qu'il a écrit cette lettre encyclique. Et nous voulons, pour l'Église, pour l'humanité, rechercher avec force, le plus qu'on peut, la vérité philosophique et faire que par la métaphysique, on touche, on découvre l'existence de Dieu. Et alors, on est en présence d'une sagesse philosophique. La sagesse philosophique ne peut exister comme sagesse que lorsque mon intelligence arrive à affirmer qu'il est nécessaire que Dieu existe, que l'intelligence arrive par elle-même, par ses expériences, à affirmer la nécessité de l'existence de Dieu. Et par le fait même, la possibilité pour l'intelligence humaine de réfléchir, de contempler ce qu'est Dieu. Vous voyez, ce que nous faisons, c'est d'essayer d'éveiller notre intelligence dans cette recherche de la vérité. Notre intelligence ne vit que lorsqu'elle recherche la vérité. Si mon intelligence ne recherche pas ce qu'est la vérité, elle ne vit pas. Elle est chloroformée. Elle dit des choses intelligentes. Les lois, elle recherche des lois, c'est très bien, mais ça ne va pas plus loin. Elle ne découvre plus ce qu'est l'âme et ce qu'est Dieu. Voilà les deux grandes pertes de l'intelligence. Notre intelligence moderne de notre monde d'aujourd'hui, qu'il s'agisse du monde européen, qu'il s'agisse du monde américain, qu'il s'agisse du monde africain, l'Inde, je n'en parle pas. C'est une intelligence saisie par la science moderne et qui n'atteint plus l'essence de Dieu. Je me souviens, quand le Saint-Père est passé à Fribourg, le Fribourg de Suisse, qu'il a fait un grand discours pour montrer ce que l'université de Fribourg devait être. À la fin du discours, on a demandé aux étudiants et étudiantes si elles avaient des questions à poser au Saint-Père. Les professeurs étaient loin, je n'étais plus professeur à Fribourg, donc j'étais du côté des étudiants. Alors, une étudiante, parce qu'elles ont toujours plus de courage que les étudiants, une étudiante a dit très Saint-Père, nous avons de bons professeurs, mais nous n'avons pas de maître à penser. Est-ce que vous pourriez nous indiquer qu'est-ce qui manque à ces professeurs qui sont bons et qui ne sont pas des maîtres ? Les professeurs étaient derrière, hein ? Je n'étais pas avec eux. C'est une bonne question, hein ? Question piège. Il fallait qu'il réponde. Hein. En regardant l'étudiante, en tendant le dos au professeur. Alors le Saint-Père dit, pour être un bon professeur en science, il faut connaître la matière. Pour être un maître, il faut être un sage. Alors le Saint-Père a fait tout de suite sa distinction en disant, l'université de Fribourg, qui est une petite université, qui est une université d'État, mais avec le souci d'être en conformité avec la foi catholique, l'université de Fribourg doit être une université où la philosophie et la théologie sont des sagesses. Ce qui manque à vos professeurs, c'est d'être des sages. S'ils étaient des sages, ils seraient des maîtres. Et c'était dit avec netteté, fermeté. Et c'est vrai, si une université veut être en conformité avec l'enseignement de l'Église, il faut atteindre la sagesse. L'homme réclame la sagesse. Alors, quelle différence y a-t-il entre science et sagesse? C'est important. En Sorbonne, actuellement, vous n'avez pas beaucoup de philosophes qui cherchent la sagesse. Pas beaucoup. Ils sont compétents dans leur manière, dans leur matière. Ils sont des bons professeurs. Ils vous préparent à la licence et au doctorat en étant des spécialistes. La sagesse n'est pas une spécialisation. Elle regarde l'homme. Alors, nous cesserons de préciser, parce que ici, nous voulons un enseignement de sagesse. Nous tendons vers cela, pour ne pas être prétentieux. Nous tendons vers cela, c'est déjà beaucoup d'avoir la volonté, le désir d'atteindre la sagesse et d'enseigner la sagesse, une philosophie sapientielle. Pas une philosophie uniquement scientifique, mais sapientielle.